Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La monnaie de Paris fait peau neuve et son président Christophe Beau est un des invités de Franck Ferrand aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. C'est un numéro spécial d'Au cœur de l'histoire que nous vous proposons aujourd'hui pour célébrer la monnaie de Paris qui est, ne l'oublions jamais, la plus vieille entreprise de France. Christophe Beau va nous dire ça dans un instant et nous en profiterons pour revenir sur cette passionnante histoire de la monnaie. Vous savez que c'est au cœur de tout la monnaie.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Arnaud sur les expressions en lien avec la monnaie.
Et oui, nous baignons donc, comme je le disais à Wendy Bouchard, dans l'or et dans l'argent cet après-midi sur Europe.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Bonjour Christophe Beau. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors il faut que vous nous expliquiez de quand date cette entreprise dont je viens de dire à l'instant qu'elle était la plus vieille entreprise de France. Vous en êtes le président directeur général, je précise.
Alors il faut que vos auditeurs écoutent bien parce que nous datons de 864.
On n'a
bien...
pas dit 1800.
Exactement, 864 par un édit qui s'appelle l'édit de Pitre, signé par un roi qui était Charles II le Chauve. Ça ne s'invente pas.
Là, ça nous ramène dans une époque carolingienne totalement
exactement.
Incroyable. Et depuis, la monnaie qu'on appelle maintenant donc la monnaie de Paris n'a cessé de frapper monnaie.
Exactement, elle a traversé tous les régimes de notre pays. Elle a commencé son activité dans un endroit qui correspond à peu près aujourd'hui au palais de justice sur l'île de la Cité, qui était donc évidemment le palais royal à l'époque des Carolingiens. Elle s'est beaucoup promenée. On est allé ensuite rive droite vers la place des Vosges, ensuite toujours rive droite vers le Louvre, vers notamment ce qui est une petite rue de la Monnaie qui existe encore, coincée entre la Samaritaine et l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, pour ceux qui connaissent le quartier.
Ça a conservé le nom, c'est ça qui est amusant. C'est toujours la rue de la Monnaie. La plupart des gens ne savent pas pourquoi, mais enfin, ça vient de là.
Et donc, à côté de Saint-Germain-l'Auxerrois. Et en fait, aujourd'hui, la Monnaie est en face, rive gauche, dans un très beau bâtiment construit par Louis XV et Louis XVI, et qui s'appelle donc la Monnaie de Paris. Mais nous avons encore une dernière vicissitude, si j'ose dire, qui est que dans les années 70 du siècle dernier, une usine de fabrication a été construite à Pessac, en Gironde. Mm-hmm. Et c'est là, en réalité, que se
tient...
Dans la banlieue de Bordeaux, absolument. Et c'est là que se tient la principale activité de fabrication de pièces de monnaie courante. Mais à Paris, nous conservons des ateliers qui sont extrêmement fascinants, puisque c'est là qu'on fabrique encore des pièces d'or et d'argent. Donc on est en plein dans ce bain de métaux précieux que vous évoquiez tout à l'heure.
Ce qui veut dire que nos pièces de 1 euro, 2 euros, etc. sont en partie fabriquées à côté de Bordeaux ?
Sont essentiellement fabriquées à côté de Bordeaux. Et à Paris sont fabriquées les pièces d'argent, par exemple, comme les pièces de 100 P qu'on
alors
trouve
oui,
aujourd'hui
à la Poste.
Voilà. Puisque
Liberté,
égalité, fraternité, les pièces de 10 euros de 100 P, qui sont donc plutôt des pièces alors, qui ont cours légal, mais qui peuvent se collectionner, s'offrir en cadeau, qui correspondent un petit peu à ce que nous connaissions il y a encore 20 ou 30 ans, les Hercules, qui eux-mêmes étaient les successeurs
des
Napoléon.
En fait, oui.
Voilà. Et donc ce sont des cadeaux typiquement qu'on se fait dans des familles pour des anniversaires ou pour voilà,
d'ailleurs,
des événements particuliers.
Les pièces de 100 P, vous les avez éditées en or aussi, j'ai
elles
vu passer ça.
Elles sont également en or, en argent et en or, tout à fait.
Alors, la monnaie de Paris, j'ai commencé par là, est en train de faire peau neuve. Il faut que vous nous expliquiez ce qu'est cet immense projet métamorphose. Je dis bien métamorphose avec un jeu de mots évident sur les espèces métalliques.
Alors, nous avons un site parisien, donc comme je l'ai dit, construit par Louis XV et Louis XVI, qui occupe un hectare au sol, ce qui est considérable, en plein cœur du 6e arrondissement, au croisement entre le Pont Neuf, le Quai de Conti, un endroit très prestigieux. Et ce bâtiment a été en quelque sorte un peu désaffecté dans les années 70, lorsque l'usine de Pessac justement a été construite, et il était un peu en déshérence, puisque son utilité n'était pas tout à fait réinventée. Et donc, il y a quelques années, on a eu l'idée de construire un projet qui a pour but essentiellement de passer d'un état antérieur où c'était une sorte de Fort Knox replié sur lui-même à un nouvel état qui est ouvert sur la ville, avec le projet de rendre visibles nos ateliers de manufacture de pièces d'or et d'argent et de permettre au public d'accéder dans ce bâtiment magnifique qui est un pur chef-d'œuvre de l'architecture du XVIIIe siècle. Et donc pour cela, notre projet comporte plusieurs aspects. Il y a d'abord la visite des ateliers eux-mêmes qui sera possible dès 2016, mais avant, nous avons deux éléments qui sont très importants, qui sont le restaurant de Guy Savoy, donc un restaurant de très haute gastronomie qui va venir s'installer au premier étage. Et puis, cette semaine, ouvre les nouveaux espaces d'exposition d'art contemporain. Et là aussi, c'est une façon un peu inattendue, un peu ludique, nouvelle, de faire venir un public différent, qui n'est pas forcément un public numismatique à l'origine, mais qui va venir découvrir à la fois le bâtiment et son contenu, avec une exposition donc, de Paul McCarthy comme exposition inaugurale.
Oui, une exposition dont on a beaucoup parlé.
Oui.
Déjà. Cet extraordinaire bâtiment, il faut en dire quand même quelques mots, c'est le chef-d'œuvre de Jacques-Denis Antoine. On est dans le néoclassicisme triomphant. C'est peut-être, on peut dire que c'est un des plus beaux bâtiments néoclassiques de Paris et même de France. Hein. C'est gigantesque, c'est avec toutes ces colonnes à l'antique, bien entendu, un style dorique dominant sur l'extérieur. Tout ça est assez viril, si je puis dire, assez martial. Et on se rend compte de l'extrême raffinement des décors quand on entre dans la Monnaie de Paris, où vous êtes les voisins des académiciens, en fait. Hein, vous êtes juste à côté de l'Institut de France.
C'est effectivement un très beau bâtiment, d'abord qui est important dans l'histoire de l'architecture, parce qu'il marque au fond une sorte de césure entre la grande architecture palatiale de la fin du 18e et la préfiguration de l'architecture industrielle du 19e. Nous sommes une manufacture, en réalité, avec une très belle façade sur Seine, que vous avez admirablement décrite, avec son côté très coffre-fort.
Voilà, c'est ça.
Et puis, à l'arrière, une manufacture que les Parisiens ou les Français en général ne connaissent pas d'ailleurs, et c'est ça que nous voulons faire découvrir. Car il y a un dédale de cours et d'ateliers qui sont absolument fascinants.
Avec donc ces expositions d'art contemporain, avec ce grand restaurant confié à Guy Savoy, qui ouvrira quand lui ?
Il ouvrira en janvier prochain, en 2015.
Vous continuez de fabriquer sur place, donc vous nous l'avez dit, un certain nombre d'objets d'élite, des médailles bien entendu, des pièces en or.
Des décorations
officielles. Et puis des décorations, c'est-à-dire quand on a la Légion d'honneur ou l'Ordre du Mérite, c'est vous qui fabriquez les médailles en fait.
Exactement.
C'est ça. Et ça fait partie, ça, de vos fonctions, est-ce qu'on peut dire régaliennes ? Vous avez une mission de service public ?
C'est ça qui est un petit peu complexe à expliquer, c'est que nous avons d'un côté une activité régalienne de frappe de monnaie pour laquelle, effectivement, nous exerçons un monopole. Ce sont les pièces courantes que les Français utilisent tous les jours dans leur porte-monnaie ou chez les commerçants. Et ça, effectivement, pour des raisons évidentes, il n'y a qu'une seule entreprise, c'est une entreprise d'État qui le fabrique, puisqu'on fabrique l'argent. Mais ça représente aujourd'hui à peu près un tiers de notre activité. Et en fait, les deux tiers sont une activité qui, elle, est concurrentielle, puisque la fabrication de médailles ou de décorations officielles peut être faite par d'autres entreprises. De fait, d'ailleurs, il y a d'autres entreprises en France qui en font. Et c'est cette partie-là qui s'est le plus développée ces dernières années. Et c'est cette partie-là qui, sans doute, fait intervenir le savoir-faire le plus pointu de nos artisans d'art, qui sont des graveurs, qui sont des maîtres estampeurs, et donc qui, je dirais, font vivre un art qui vient du fond des âges, et qui est extrêmement...
Et qui est un peu méconnu, il faut bien le dire.
Qui est à la fois méconnu et émouvant parce qu'on grave dans le métal.
Oh, c'est extraordinaire.
Ça veut dire qu'on fait des choses qui durent très très longtemps et qui réclament une très grande minutie.
Avec une finesse.
Oui.
Le moindre geste, évidemment, modifie complètement la composition, le dessin de ce qui va être, de ce qui ensuite sera frappé. Donc c'est un travail de très haute maîtrise et d'excellence.
Il faut quasiment d'orfèvre.
D'orfèvre.
De nombreuses années pour être un excellent graveur.
Alors, de façon plus commune, dans vos ateliers de Pessac, vous frappez actuellement des euros. Je vais proposer à nos auditeurs un retour un peu nostalgique sur ce qui s'était passé avant, pendant très longtemps. Pendant des siècles, nous allons revivre en quelques minutes la grande saga du franc.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, notre monnaie est au cœur de l'histoire, et qu'il soit en or, en argent, en papier, Franck Ferrand, vous nous racontez l'histoire du franc.
Eh oui, il y a une bonne douzaine d'années, c'était le 1er janvier 2002, on a tous, enfin en tout cas à part les très très jeunes auditeurs, mais sinon tout le monde se rappelle ça forcément, nous avons changé de monnaie et nous avons donc remplacé le franc par l'euro. Ce franc, il était peut-être moins vieux qu'on ne pourrait le penser, car en tant que tel, il n'avait que deux siècles finalement. Il avait été créé en 1803, mais sur une base qui, elle, évidemment, était beaucoup, beaucoup plus ancienne, parce que le franc avait des ancêtres, si je puis dire, et le plus lointain ancêtre, il nous ramène au règne de Jean le Bon, Jean II, qui, vous le savez, avait été battu à plate couture par le prince noir et ses armées anglaises à Noyers-Maupertuis, près de Poitiers, en 1356. Le roi, c'est un des rares cas dans l'histoire de France, le roi avait été capturé, il est parti en captivité en Angleterre. Alors, il y a eu des transactions qui ont été d'ailleurs assez rocambolesques, parce que le roi est sorti une fois, on l'a remis ensuite en geôle, parce que lui-même estimait que la rançon qui avait été prévue n'était pas garantie, donc c'est invraisemblable comme situation. Mais bref, et finalement, en 1360, en mai 1360, le roi est libéré contre rançon, bien entendu, et il débarque à Calais, en juillet 1360. Il est libre, à l'époque, on ne disait pas « il est libre », on disait « il est franc ». Et voilà peut-être, je dis bien peut-être, l'origine du nom de cette monnaie, car on va se mettre à frapper une belle et bonne monnaie, une pièce d'or pure, ce qui n'avait pas existé depuis le règne de Saint-Louis, entre parenthèses. Et on va donc frapper cette nouvelle monnaie. Et sur la monnaie, eh bien, on montre un roi libre, un roi franc. En même temps, l'inscription indique « Rex Francorum », roi des francs. Alors peut-être que le franc n'est pas seulement l'homme libéré, peut-être est-ce que c'est tout simplement le franc descendant des anciens rois mérovingiens. C'est peut-être ça l'idée, sinon descendant d'ailleurs, pour être plus exact, successeur. Toujours est-il que ce bonhomme à cheval, parce que c'est un franc équestre, bien entendu, va devenir la nouvelle monnaie de référence. Elle est à 3,82 grammes, ce qui est énorme, entre parenthèses. Sous Charles V, en tout cas, elle est décidée, oui, donc sous le règne du fils de Jean II, elle est décidée à 3,82 grammes. On est là en 1365. Et très vite, au franc à cheval va succéder un franc à pied. On verra dans un instant pour quelle raison d'ailleurs. Alors, on va continuer à frapper comme ça des francs avec cette chose tout à fait passionnante que sont les espèces de dévaluations qu'on pouvait faire à l'époque. Le pouvoir royal, vous savez, rognait un peu de la quantité d'or et récupérait comme ça un certain nombre de métal, bien entendu. Ce qui permettait de faire avancer l'économie. Évidemment, ce franc, il est frappé de façon de plus en plus aléatoire jusqu'en 1575. C'est Henri III qui va en frapper de nouveau. Mais alors attention, cette fois on est descendu. C'est une pièce d'argent de 14,18 grammes. Et il n'y a d'ailleurs que 11,8 grammes d'argent dans cette pièce. On l'appelle le franc blanc pour le distinguer, bien entendu, des belles pièces d'or dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, petit à petit, ce franc qui avait été frappé donc pour la dernière fois sous le règne d'Henri III, qui a été allégé d'ailleurs par les trésoriers d'Henri IV, il va finir par disparaître. Et il n'existe plus que comme monnaie de compte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Quand je dis il n'y a plus, on ne frappe plus de monnaie de transaction, mais en revanche, pour mesurer, pour compter, pour faire des comptes, on continue d'utiliser le franc. Et c'est un franc qui, dans l'esprit public, et là il y a une espèce de confusion qui s'établit, qui va être confondu avec la fameuse livre. Ce qui fait que vous pouviez très bien dire, sous le règne de Louis XV par exemple, vous pouviez dire indifféremment 3000 livres ou 3000 francs. Alors, je me suis amusé à voir ça dans le furetière. Quand vous allez regarder dans le dictionnaire, vous vous rendez compte qu'en fait, en fonction de ce dont on parle, on utilisait plutôt les francs, plutôt les livres. Là, ça devient d'une complexité folle. C'est-à-dire que lorsqu'on a des sommes rondes au-delà de 3 francs, on dit 4 francs, 6 francs, 7 francs, 24 francs. Enfin bref, ça, c'est normal, on parle en francs. Mais lorsqu'on a des sommes qui sont divisées, c'est-à-dire que par exemple si vous avez 8 livres, 3 sols, 4 deniers, alors là on n'a plus le droit de dire francs, on ne dit pas 8 francs, 3 sols, 4 deniers. D'ailleurs je dis 3 sols parce que ça s'écrit comme ça, mais à l'époque on prononçait sous. On écrivait 3 sols mais on disait 3 sous. J'ai découvert ça toujours dans le même article du vieux dictionnaire, c'est assez intéressant. Bon bref, et pour les très grosses sommes, quand on parlait de 100 000, 200 000 livres, les sommes du trésor public notamment, alors là on reparlait de livres, on ne parlait plus de francs. Bon. Toujours est-il que ce franc, il va revenir à la faveur de la fièvre décimale qui s'empare de nos élites sous la Révolution, vous savez. On va réinstaurer le franc, c'est la loi du 18 germinal en 3, qui dit l'unité des monnaies prendra le nom de franc pour remplacer celui de livre. C'est à l'époque où on est en train d'installer le litre, le mètre, enfin on modifie toutes les... toutes les mesures, vous savez, toutes les unités de mesure pour les adapter au système décimal. Et donc, on utilise à ce moment-là le franc qui est encore un franc or, hein, ce franc germinal, qui va connaître d'ailleurs des vicissitudes, mais en même temps un prestige considérable. C'est une monnaie de référence. Ça va bientôt devenir la monnaie de référence à partir du moment où on établit sa convertibilité en or. C'est toujours la même chose. Alors, il y a des alertes en 1805, 1814, 1848, bien entendu. En 1870, c'est ce qu'on appelle la crise du bimétallisme, l'abandon de la frappe libre de l'argent, c'est-à-dire qu'on ne fait plus d'équivalence qu'en or, il n'y a plus d'équivalence argent. La monnaie n'en reste pas moins extrêmement prestigieuse. Il y a l'Union latine à l'époque. C'est-à-dire que des pays aussi différents que la Belgique, la Suisse, l'Italie, la Grèce, etc., utilisent le franc comme monnaie de référence. Bon. Et puis, évidemment, avec la Première Guerre mondiale, 5 août 1914, c'est la rupture de la vieille définition de 1803. Le franc cesse d'être convertible en métal. Alors, il le sera encore pendant une petite parenthèse. Vous savez, nos arrière-grands-parents avaient conservé, j'ai des souvenirs de ça, la nostalgie de ce qu'on appelait le franc Poincaré, puisqu'entre 1928 et 1936, le franc va être de nouveau convertible. Et puis on arrête avec le franc populaire, ça commence avec les dévaluations, qui d'ailleurs sont relativement nombreuses par la suite, jusqu'à ce que sous la 4e République, le franc soit en très grande difficulté. Vous savez qu'au moment de la grande réforme de 1958, faut pas confondre celle de 58 et celle de 60, hein, mais quand on crée le nouveau franc en 1958, il faut tout simplement sauver la monnaie qui était dans une situation très très grave. Et puis vous savez qu'en 60, alors ça ce sera toute la grande histoire de Jacques Rueff, on va transformer l'ancien franc en nouveau franc multiplié, enfin divisé par 100, c'est-à-dire que quand vous aviez 400 francs dans votre porte-monnaie, d'un seul coup vous ne vous retrouviez plus qu'avec 4 nouveaux francs. Pas pour tout le monde, hein, puisque certains ont continué à parler en ancien franc pendant très longtemps, quand je dis pendant très longtemps, jusqu'à l'abandon pur et simple du franc en 2002 donc.
Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Ferait le filet à 100 francs. Le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs. La poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un pot-au-feu qu'un jarret à 1000 francs, un jarret à 4 francs. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure.
Jean Poiré avec La Vache à 1000 francs. Vous restez avec nous sur Europe 1, on vous retrouve dans un court instant. Franck Ferrand, vous continuerez de nous parler de la monnaie.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et au cœur de notre monnaie, avec vous Franck Ferrand et vos invités, Christophe Beau, président directeur général de la Monnaie de Paris, et Sabine Bourget, écrivain, historienne, expert en monnaie.
Alors Sabine Bourget, cette histoire du franc nous amènerait dans énormément de considérations. C'est le traité de Brétigny, hein, c'est 1360 au départ, la toute première fois qu'apparaît une monnaie qui porte ce nom-là.
Oui, et puis ce qu'il y a d'important je trouve sur le plan symbolique, enfin, n'oublions pas que la monnaie bien sûr est un instrument de la vie économique, mais surtout s'adresse comme symbole à des gens qui ne savent pas lire.
Et oui, bien sûr.
Jusqu'au 19e siècle,
sûr.
En gros les 9/10 de la population ne lisent pas. Donc on a besoin d'un symbole. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce franc à cheval, c'est que pour la première fois le roi est représenté sur un cheval comme roi chevalier. Il n'était d'ailleurs pas du tout un bon stratège, il nous l'a prouvé, il nous a ruiné, d'ailleurs avec sa rançon de 3 millions d'écus qu'il a fallu payer.
Oui.
Alors qu'auparavant, toutes ces belles émissions d'or de la guerre de 100 ans, qui étaient aussi une façon de développer une idéologie et de se faire de la pub, on n'avait pas de médias. On était bien loin d'Internet et de tous ces fastes. Et là, on avait avant des rois en majesté, c'est-à-dire avec le symbole du pouvoir, une masse d'or, des symboles sur un
la
trône.
La monnaie, c'était le moyen pour le pouvoir royal d'entrer dans le quotidien des gens,
bien
si
sûr.
Je peux dire.
Bien entendu, c'était à la fois l'AFP, c'était Havas, c'était la télé, c'était Facebook, c'était pratiquement l'unique instrument de communication. D'où l'intérêt, en plus de l'économie, du pouvoir royal. N'oublions pas que les faux monnayeurs étaient à l'époque ébouillantés, ce qui ne devait quand même pas être très plaisant.
On les plongeait dans l'eau.
On les plongeait, je pense même, c'était peut-être de l'eau et de l'huile.
Ouais,
je ne peux même pas savoir. Mais bon, ça décourageait peut-être des vocations quand même.
Et il y en avait beaucoup de ces faux monnayeurs, parce qu'il faut dire que
tentant.
On était nombreux à frapper monnaie à l'époque, par définition.
Au moment du pouvoir royal, moins, puisque c'était centralisé. Mais si vous prenez l'époque mérovingienne, une armée d'institutions, il y avait des... Vous aviez aussi bien des monnayeurs, vous aviez des cités, donc ça donnait aussi une variété. Puis petit à petit, bon, évidemment, on a tout centralisé. Mais maintenant, on ne saurait même plus dire, moi je ne saurais même plus dire ce qu'il y a sur un euro. Qu'est-ce qu'on va... Bon, on n'a même pas besoin de le regarder.
Abstrait, là, maintenant,
c'est très abstrait, alors qu'à l'époque, c'était vraiment un outil extraordinaire de communication.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la monnaie avait une valeur intrinsèque. Ça, c'est toute la grande question. Je dirais que s'il fallait retenir une chose de cette émission, elle est là. C'est-à-dire, est-ce que la monnaie vaut pour ce qu'elle symbolise? C'est le cas de la pièce d'un euro dont on parle, par exemple. Mm-hmm. Bon, ben, c'est-à-dire qu'elle ne vaut pas elle vaut un euro parce que c'est la valeur qu'on lui donne. Mm-hmm. C'est une valeur, comment dit-on, faciale.
Ouais.
Ou est-ce qu'elle vaut un certain prix pour le poids en or ou en argent qu'elle contient? C'est ça l'affaire. Et il y a eu pendant très longtemps des monnaies qui étaient en métal précieux, bien sûr.
Bien sûr, et donc on a eu tout le problème de Philippe IV, le roi dit faux monnayeur, puisqu'en fait il avait évidemment de grands besoins d'argent avec ses campagnes, c'est toujours les mêmes histoires, hein, ses campagnes militaires en Flandre. Il a donc commencé par faire baisser la loi des monnaies, surtout l'argent. Donc il y avait moins d'argent, en même temps, bon. Donc ça lui permettait de gagner, bien sûr, de l'argent. Et puis surtout, il a considéré que le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'était de ne pas rembourser ses créanciers, comme particulièrement les Templiers, qui lui avaient beaucoup prêté. Et après, donc, on a eu aussi tous ces mystères sur les trésors des Templiers.
Oui,
parce que bon, la numismatique peut paraître quelque chose d'austère en soi. Et la partie la plus aventureuse de la monnaie, du monnayage, parce qu'on est dans des métaux précieux, c'est évidemment tous les trésors, et les trésors existent, Dieu merci, et ça permet de faire rêver, ça c'est très grand public.
Et ce qui fait rêver, je pense, les numismates, les collectionneurs de pièces anciennes, c'est d'imaginer que le petit morceau de métal, parfois d'ailleurs très mince, qu'ils ont dans le creux de la main, dans la paume, c'est, en fait, il est passé de main en main en main, et on a l'impression de voir toutes ces transactions marchandes, on se dit à quoi a-t-il servi, qu'est-ce qu'on a bien pu acheter avec telle ou telle pièce. Vous me disiez
c'est un support au rêve.
Et voilà, bien sûr. Vous me disiez, Christophe Beau, au rêve et à l'histoire, entre parenthèses, hein, parce qu'on pourrait faire une histoire de l'humanité à travers les monnaies. D'ailleurs, si vous voulez, dans un instant, on va y venir. Mm-hmm. Christophe Beau me faisait remarquer tout à l'heure que, d'après le Furetière et le dictionnaire de l'Académie française, on ne prend pas, on n'utilise pas le terme de franc pour les sommes divisées, mais vous dites, c'est vrai qu'il y a une expression en français qui dit 3 francs 6 sous. 3 francs 6 sous, ça vient de là.
En vous écoutant
tout
à l'heure.
Bien sûr.
Voilà.
Alors ça veut dire que, tout simplement, nos ancêtres n'étaient peut-être pas beaucoup plus respectueux du dictionnaire que nous ne le sommes nous-mêmes.
Au cœur de l'histoire, votre émission sur Europe 1. Et chers auditeurs, nous attendons vos messages. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par mail europe1.fr, par Twitter, le compte de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH. On vous attend également sur la page Facebook de l'émission. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Et Franck Ferrand, vous continuerez de nous parler de la monnaie et de son histoire sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Bel après-midi sur Europe 1, nous sommes avec vous Franck Ferrand et avec vos invités, l'écrivain et historienne Sabine Bourget et le président directeur général de la Monnaie de Paris, Christophe Beau. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de notre monnaie sur Europe 1.
Ce qu'il faut dire, Sabine Bourget, c'est que vous êtes aussi à la tête d'un cabinet, le cabinet Bourget Numismatique, qui a été créé, je vous laisse le dire.
Qui a été créé par mon grand-père en 1895.
Donc c'est vraiment une histoire de famille chez vous.
Ah, c'est une vieille histoire.
Vous êtes né au milieu des monnaies, certaines anciennes, certaines même très anciennes. Depuis quand est-ce qu'on possède, qu'on trouve de véritables monnaies au sens où nous l'entendons?
Écoutez, à l'heure actuelle, bon, les historiens sont d'accord pour le fixer vers le 7e avant Jésus-Christ, en Asie mineure. C'était des petites gouttes de métal qui, au début, portaient juste une espèce de chiffonnage dans le métal, un carré creux. Et petit à petit, donc, les rois de Lydie ont mis des symboles dessus. Mais les tout premiers échanges, c'était les animaux, en fait. C'était le bétail, le pecus, en latin, qui veut dire le bétail, qui a donné d'ailleurs tout ce qui est pécuniaire.
Voilà.
Et on est passé donc du troc au métal. Parce que le métal, c'est pérenne et c'est divisible.
Parce qu'autrefois, on a pu utiliser des coquillages, on a utilisé des végétaux, etc. Enfin, toutes sortes de choses, des pierres, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme élément de monnaie. Et il suffit qu'on confère une valeur à l'élément en question. À partir du moment où on a du métal, on va pouvoir le frapper, c'est-à-dire mettre un poinçon dans un premier temps, puis ensuite carrément le graver, enfin avoir, avoir dessus soit des effigies, des inscriptions, des symboles, etc. C'est, là que ça, c'est là que ça devient poétique, comme vous nous le disiez tout à l'heure.
C'est vrai.
Dans quelle région du monde est-ce que ça se développe dans un premier temps?
Donc, d'abord en Asie mineure, puisqu'en fait, vous savez, c'est là où coulait le pactole.
La partie est du bassin méditerranéen.
Oui, c'est là où coulait le pactole avec donc de l'électrum, un alliage d'or et d'argent naturel. Et après, évidemment, en Grèce, Rome. Et après, bon, c'est une... Tout s'étend.
On découvre régulièrement des trésors de monnaies anciennes, grecques ou romaines, surtout romaines pour ce qui est de nos régions, par définition. Le plus célèbre trésor, ça c'est tout à fait étonnant, c'était le trésor d'Arras.
Pour les monnaies romaines, oui, c'est à ce jour certainement le trésor le plus riche, tout point de vue qui était trouvé en tout cas en France. Juste un mot pour la législation, si on trouve un trésor dans la terre... C'est l'article 716 du Code, et souvent les gens ne le savent pas, c'est la moitié appartient à la personne qui trouve, qui s'appelle l'inventeur, et l'autre moitié au propriétaire du terrain. Mais la première chose à faire, c'est de déclarer aux autorités cette découverte pour pouvoir en jouir naturellement.
Bien sûr.
Et le trésor d'Arras a été trouvé en 1922, donc près d'Arras. Septembre 22, vous savez tout, par des ouvriers qui faisaient des travaux, qui ont trouvé un pot dans la terre, c'était une briqueterie. Et bon, ils n'ont pas été particulièrement impressionnés, donc ils se sont distribués un peu les trucs. Il en manquait, ils ont tout mis dans une espèce de petit hangar pour la nuit. La moitié, évidemment, avait disparu le lendemain. Comme l'époque était quand même très bien pensante, le curé est monté en chaire le dimanche à dit faut rendre les objets, tout est revenu pratiquement. Et c'était en fait des monnaies d'or pour la plupart, de l'argenterie aussi, qui dataient de la fin de l'Empire romain, vers 295-296. Et il y avait notamment des médaillons, c'est-à-dire des multiples, des choses absolument extraordinaires et splendides dont on voyait l'empereur. Et tout ça était lié à une expédition donc de Constance Chlore, qui était un des quatre empereurs. Chlore parce qu'il n'était pas lichon. Et il faisait une expédition en Angleterre. Et à ce moment-là, il était de bon ton d'acheter les hauts dignitaires de l'armée en leur faisant un don en argent, en or.
En espèces sonnantes et trébuchantes, c'est le cas
exactement.
De le dire.
Et donc c'était certainement un des généraux de Constance Chlore qui s'est dit « je vais enfouir avant de partir le trésor ». Et à mon retour, je reviendrai. Et fatalement, il a dû mourir pendant l'expédition. Il a fallu entendre donc des siècles et des siècles pour retrouver le trésor.
Est-ce que ces vieilles monnaies antiques ont continué de servir à d'autres époques? Je pense pendant le Haut Moyen-Âge, même pendant le Moyen-Âge, on utilisait encore des pièces romaines, ça pouvait arriver?
Romaine, je ne pense pas. Non, romaine, non. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours un écart,
mais
si
voilà,
vous voulez, entre un règne, bien entendu, puisqu'on n'était pas du tout dans les choses formatées comme maintenant. Et bien entendu, dans les trésors, on trouve toujours souvent une assez grande longueur.
Je pose cette question parce qu'il y a eu toute cette période du Moyen-Âge pendant laquelle on n'a plus de monnaie d'or. L'or disparaît en quelque
sorte. L'or disparaît,
de
il réapparaît au XIIIe siècle, voilà. Lié bien entendu au développement des villes, à tout un commerce nouveau. Et on a effectivement, pendant plusieurs siècles, une économie monométallique basée sur l'argent. Ce qui, pour moi qui aime l'or, est assez ingrat. Mais enfin bon, il y a des fanatiques de monnaie carolingienne et de monnaie féodale, et c'est très bien.
Alors évidemment, la frappe des monnaies constituait la base même de la souveraineté, Christophe Beau. On est là au cœur même de ce qu'on appelle le pouvoir. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'avoir le pouvoir? On pourrait presque dire c'est rendre la justice, décider de la guerre et frapper monnaie, battre monnaie, comme on disait, c'est ça.
Alors il y avait effectivement des ateliers monétaires répartis dans plusieurs grandes seigneuries. On en trouve encore des vestiges aujourd'hui sous la forme des hôtels des monnaies qui peuvent exister dans des villes en région. Petit à petit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça s'est centralisé dans les mains d'un seul suzerain, le roi de France, qui lui-même non seulement a unifié le pouvoir de battre monnaie, mais a aussi unifié le dessin, de manière à ce que son effigie soit reconnaissable partout.
Ça soit la même.
C'est Henri II qui a fait cette centralisation, et c'est ce qui fait qu'ensuite on a pu reconnaître le portrait du souverain partout en France, jusqu'au jour où Louis XVI a même été reconnu à Varennes grâce à une pièce de monnaie.
Et voilà. Oui. Ça a été la mauvaise surprise.
Exactement.
En quelque sorte. Louis XVI qui était parti à Montmédy et qui donc se trouve arrêté avec sa famille à Varennes. Et on dit que le chef du relais de poste l'avait reconnu grâce à une pièce de monnaie. Ce qu'il faut préciser, vous nous dites que l'effigie du roi est partout la même à partir d'Henri II, c'est qu'à partir d'Henri II, on fait une frappe qui devient mécanique. Jusqu'alors, c'est un forgeron qui tape avec une matrice sur un morceau de métal.
Alors, effectivement, de même que les monnaies ont une évolution historique intrinsèque, les techniques de monnayage ont elles aussi évolué dans le temps. D'abord avec la frappe au marteau, effectivement, Puis ensuite, les balanciers, qui sont l'utilisation d'une énergie mécanique, alors mue à bras d'homme, puis ensuite par des chevaux, pour donc faire bouger ces grands balanciers qui contiennent des poids et qui permettent de frapper plus fort, hein, plus de graver le métal de manière...
D'immenses tourniquets,
ça ressemble à des tourniquets, ouais, avec des poids au bout, effectivement, et donc c'est ce qui donne la force cinétique pour enfoncer le métal de manière très profonde. Et puis ensuite, on passe évidemment à la vapeur, et aujourd'hui à l'électricité. Donc aujourd'hui, nous avons des presses qui sont commandées par des commandes électroniques et
qui sont d'une efficacité folle,
frapper plusieurs centaines de tonnes, effectivement.
D'ailleurs, c'est Laurence qui nous pose la question via Facebook, j'imagine, et qui vous demande de quoi sont composées nos pièces aujourd'hui, nos pièces communes. Par exemple, mettons la pièce d'un euro, quel est le métal? Il n'y a plus d'or du tout dedans, bien sûr.
Non, ce sont des alliages qui sont souvent, qu'on appelle cupro-halo-nickel. Alors, pardon pour le côté un peu technologique, c'est donc du cuivre, de l'aluminium et du nickel, dans des proportions variables. Et alors, ça dépend évidemment selon que, par exemple, si on parle d'une pièce de 2 euros, il y a, comme tous les Français le savent, la couronne et l'insert, qui sont deux couleurs différentes parce qu'ils sont formés d'alliages légèrement différents.
Alors, cette monnaie va devenir de plus en plus sophistiquée. Elle devient un véritable art. On va voir sous Louis XIII et surtout sous Louis XIV naître cet art de la médaille tout à fait extraordinaire avec les meubles qui vont avec. Hein, les médaillés ont tiré tous ces tiroirs et dans ces tiroirs, vous aviez des médailles qui étaient, on peut dire que c'était, Sabine Bourget, des médailles commémoratives pour l'essentiel.
Oui, il faut déjà savoir que Louis XIV collectionnait les monnaies, les médailles. Sous Louis XIII, vous parliez effectivement d'une sophistication, apparaissent avec un graveur qui s'appelle Varin, des pièces extraordinaires, des multiples de 4, de 8 et de 10 louis, qu'on appelait des pièces d'hommage, qui ne servaient pas à la vie économique, mais qui servaient à la table de jeu du roi. Imaginez Las Vegas, mais de façon vraiment extraordinairement glamour.
C'était des vrais jetons, jetons monétaires.
Ce sont des pièces très rares qui sont connues généralement à une vingtaine d'exemplaires dans le monde. Et Sacha Guitry, qui était un client du cabinet et qui aimait les grands modules en or, avait un 8 louis et un 10 louis dans sa collection.
Ah, c'est magnifique, oui. On imagine Sacha collectionner tout ce qui était rare, tout simplement,
oui,
et tout ce qui était beau.
Tout
simplement. Sous le règne de Louis XV, on voit une espèce de multiplication monétaire. Alors là,
oui,
ça de...
parce que ce sont des règnes très longs, comme
mais
sous
oui,
Louis XIV.
Sûr, hein.
Et c'est ça qui est passionnant.
72 ans Louis XIV, 52 ans Louis XV, donc ce sont de très longs règnes.
On voit à chaque émission le roi donc changer évidemment de visage, de tout petit, jusqu'au Louis vieille tête, donc de Louis XV. Et toujours la même chose pour les gens dans le royaume, c'était la seule façon de voir le portrait du roi. Quand vous étiez au fin fond du royaume de France, c'était une occasion absolument unique.
Oui, c'est un instrument de propagande d'une
Totalement.
Certaine manière, mais ça fait la joie aujourd'hui des collectionneurs.
Bien sûr.
Dire. On parlait du trésor d'Arras tout à l'heure. Il y a un autre trésor auquel vous avez d'ailleurs consacré un roman qui s'appelle Le trésor de la rue Mouffetard. Ça, c'était en quelle année?
Ça, c'était en 1938. De la dernière affaire de mon grand-père.
Oui.
Et en fait, il a été trouvé 51-53 rue Mouffetard. L'immeuble n'existe plus. Et il était donc
dans le 5e arrondissement de Paris.
Dans le 5e, près de l'église Saint-Médard, puisque c'est très lié à la secte des convulsionnaires. Et ce trésor a été trouvé dans des testaments qui avaient été faits par la personne qui le laissait. Et donc, les généalogistes à cette époque-là ont retrouvé 83 héritiers de ce personnage de la moitié du XVIIIe siècle, qui donc a réussi à léguer non pas à l'époque, mais deux siècles après ses descendants. Ce sont des monnaies relativement courantes, mais c'est une histoire incroyable,
oui,
vraiment une belle histoire.
C'est la quantité, bien sûr, qui a fait le...
Oui, et puis l'histoire autour, tout à fait étonnante, des convulsionnaires.
On a dit un mot tout à l'heure des faussaires, des très anciens faussaires. Mmh. La fausse monnaie s'est développée au XIXe siècle, il faut
bien
le dire.
Bien sûr,
hein.
Avec les très grands faussaires, comme des gens comme Becker, Caprara...
Et elle est devenue une industrie avec le billet de banque, il faut le dire aussi, parce que là, on quitte la monnaie métallique au bout d'un moment.
Oui, évidemment. Mais aussi maintenant, à l'heure actuelle, malheureusement, tout ça aussi à cause des progrès de la prothèse dentaire.
Ah oui.
Beaucoup de faussaires, certains ont commencé comme prothésistes dentaires, l'habitude de travailler le métal en tout petit.
Tous ceux qui essaient de mettre une pièce d'un euro dans un distributeur qui la leur restitue obstinément comprendront ce dont vous parlez.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, au cœur de notre monnaie sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, l'écrivain et historienne Sabine Bourget et le président directeur général de la Monnaie de Paris, Christophe Beau.
Est-ce que vos clients, Sabine Bourget, collectionnent aussi les pièces actuelles, c'est-à-dire les tirages spéciaux de la Monnaie de Paris, par exemple, ou est-ce qu'ils se cantonnent aux pièces anciennes?
Généralement, mes clients ne collectionnent pas tellement les objets modernes, les monnaies modernes, mais parfois leurs enfants, leurs petits-enfants commencent
dire,
comme
oui.
ça
oui.
Et c'est un excellent début parce que ça leur donne le goût de la monnaie, le goût de l'histoire. Et souvent, non, quand même mes clients collectionnent les objets plus anciens.
Alors c'est Jean-Pierre qui, via Internet, nous rappelle, et c'est tout à fait vrai, qu'on parlait beaucoup en sous encore autrefois. Alors, sous l'Ancien Régime, ça s'écrivait sol, ensuite on s'est mis à écrire comme on prononce, c'est-à-dire sous. 10 sous, c'était 50 centimes. Un sous, c'est 5 centimes. Donc ça faisait que, au lieu de dire un franc, on disait 20 sous. Moi, c'est vrai, j'avais une arrière-grand-mère qui disait ça. Elle disait, tiens, voilà, 40 sous, ça voulait dire 2 francs. Ou 100 sous, ça voulait dire 5 francs, etc. On est de toute façon, là, toujours dans le métal, Christophe Beau, ce qu'il faut bien expliquer, parce que tout le domaine des billets de banque, mais ça, si je puis dire, ça vous échappe, ça, c'est pas...
Oui, parce que c'est d'abord la Banque de France qui imprime les billets de banque, tandis que nous frappons les pièces de monnaie. Voilà.
Alors, le métal est au cœur de ce que vous êtes en train de créer à la Monnaie de Paris. Ça devient en quelque sorte votre emblème.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé notre projet sur le site parisien Métalmorphose, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le métal sous toutes ses formes, puisque nous fabriquons les pièces courantes à Pessac en métal courant, mais nous fabriquons aussi des pièces d'or et d'argent, plutôt dans nos ateliers parisiens. Ce sont des pièces de collection, généralement, qui représentent des thèmes chaque année différents. Et par exemple, cette année, nous avons donc les pièces sans paix, liberté, égalité, fraternité. Nous avons aussi le coq, qui est un emblème monétaire très ancien, qui trouve ses racines dans l'histoire du franc, d'ailleurs, bien sûr. Et nous avons des pièces représentant le coq de 500 euros en or, ou de 1000 euros en or, ou même de 5000 euros en or. Et là, on est un peu à la frontière. Vous parliez tout à l'heure, Franck, du fait que les pièces avaient été rognées et qu'il fallait distinguer leur valeur faciale et leur valeur en poids métallique.
Mais là,
et bien là, on est dans cette continuation de cette histoire, puisque ces pièces de 1000 euros, de 5000 euros ou de 500 euros, elles ont à la fois un cours légal qui correspond
au moment de leur vente,
au moment de leur vente, qui correspond donc aux chiffres que je viens d'indiquer. Elles ont également un poids en métal, qui est en général un peu inférieur, bien sûr, mais qui peut, si le métal varie dans le temps, supplanter le cours légal.
Et voilà.
On a eu le cas dans les années 2008-2009, à une époque où l'or augmentait très très vite, et où nous avons édité des pièces de monnaie qui avaient un certain poids d'or, avec une certaine valeur faciale, qui était légèrement supérieure, et quelques mois plus tard, la valeur métal est devenue supérieure à la valeur légale. Bon. Et donc, c'est très intéressant pour les collectionneurs, puisqu'ils peuvent ainsi faire un pari sur...
Oui, il y a une spéculation.
Cours des métaux dans quelques années.
Et ça me rappelle mon tout premier cours d'économie, où on nous apprenait que ce qui est rare est cher. Donc, il y a non seulement la variabilité du prix du métal lui-même qui va renchérir la monnaie, mais le fait qu'elle ait été tirée à un nombre limité d'exemplaires va lui donner,
exactement,
peu à peu, tout à fait mathématiquement, va lui donner de la valeur. Hein, puisque plus elle devient rare et plus elle va monter en valeur.
Voilà, il y a effectivement deux raisons de les collectionner. Trois raisons, je dirais, la valeur du métal, la rareté du fait qu'elles sont en tirage limité, et puis aussi la beauté, je dirais, esthétique de ces pièces, puisqu'elles sont gravées, dessinées, et qu'elles représentent des dessins tout à fait artistiques.
Alors, on a bien compris tout à l'heure que le projet Métalmorphose comporte quatre axes, si je ne m'abuse. Une offre culturelle, qui est essentielle, en fait.
Qui est donc incarnée par les expositions d'art contemporain.
Voilà, une offre commerciale, ça c'est
notre boutique.
C'est la boutique,
que les collectionneurs connaissent déjà.
Pour rester une entreprise, néanmoins.
Exactement, nous sommes un établissement public, industriel et commercial.
Et commercial, voilà.
Tout est dans le nom.
Une offre gastronomique.
Oui.
Ça c'est...
Avec le restaurant Guy Savoie, qui aura deux incarnations. D'abord son restaurant 3 étoiles, qui est très connu, qui est une des meilleures tables du monde, et qui viendra donc prendre place dans le premier étage de la Monnaie de Paris, donc avec une vue magnifique sur Seine, dans ce qui était en fait mon ancien bureau et l'ancien appartement de fonction. Mais
Quel sacrifice vous avez fait.
Non, parce que c'est normal, à l'époque où on vit, il faut évidemment valoriser les mètres carrés au mieux pour l'entreprise. Et puis Guy Savoie développera ensuite, quelques mois plus tard, un métal café, qui sera donc là en rez-de-chaussée, qui sera accessible à tous les
qui va devenir le lieu de rencontre
du
quartier qu'on a un peu besoin,
besoin.
Vous êtes très ouvert sur le quartier, hein. Ça c'est le dernier axe, si je puis dire, c'est la dimension patrimoniale.
C'est la dimension de mise en valeur du bâtiment, à la fois par son contenant, c'est-à-dire la magnifique architecture du XVIIIe siècle, qu'on va rendre traversante et capillaire. On pourra rentrer un peu par tous les côtés à la Monnaie de Paris, alors qu'aujourd'hui c'est très, très refermé sur soi. Et puis le contenu, c'est-à-dire les métiers d'art qui y sont exercés.
Alors, ces expositions vont être pilotées, si je puis dire, par Chiara Parisi, c'est elle qui...
Chiara Parisi est notre commissaire d'exposition, notre curatrice. Je l'ai recrutée il y a 2 ans maintenant. Et en fait, c'est une femme qui est passée par la Villa Médicis, qui a dirigé un centre culturel dans le centre de la France, qui est une passionnée d'art contemporain, où elle a d'ailleurs une notoriété tout à fait forte. Et donc c'est elle qui est en charge de concevoir cette programmation, qui évidemment va détonner par rapport à l'idée que se font généralement les gens d'une vieille institution comme la nôtre, mais c'est aussi fait pour ça, c'est-à-dire pour montrer que nous avons traversé tous ces siècles en nous transformant siècle après siècle, et donc cette transformation doit continuer, sinon on serait dans la naphtaline. Et donc Chiara apporte cette dimension nouvelle, avec aussi un conseil culturel qui nous assiste, où il y a donc des personnalités de premier plan de la vie culturelle française, comme le président du Centre Pompidou, comme la présidente d'Arte, Véronique Kella, Alain Seban, Martin Bettenau de la Fondation Pinault à Venise. Et ces personnalités-là nous aident à concevoir notre programmation, qui se veut une programmation d'avant-garde, résolument, de manière à faire découvrir la Monnaie de Paris à d'autres publics, et de manière aussi à créer cette passerelle entre des artistes contemporains et nos ateliers. C'est très important d'avoir cette fertilisation croisée entre l'art d'aujourd'hui et puis nos anciennes techniques.
À propos d'artistes contemporains, là, il y a l'exposition M Chocolate Factory. Ça, c'est Paul McCarthy. Oui. Et on y mange dans cette exposition ?
Non, on peut y voir. Je pense que les gens, en tout cas, ils auront de l'appétit parce qu'on est envahi par les saveurs olfactives du chocolat.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, alors, c'est une exposition assez déroutante, hein, puisque McCarthy, effectivement, est un artiste assez provocateur. On entre d'abord dans l'exposition et par une forêt de sapins de Noël. Puis on est accueilli par cette factory qui fabrique donc des Pères Noël en chocolat vraiment live devant nous, avec des acteurs qui font les gestes de la fabrication du chocolat. Et puis ensuite, on pénètre dans un univers qui est là beaucoup plus mystérieux, qui est à la fois le stockage à l'infini de ces Pères Noël en chocolat, et puis une expression de l'artiste par des vidéos. Et là, c'est assez intéressant parce que l'exposition a été inaugurée hier soir par Flore Pellerin et par Anne Hidalgo. Et en fait, il y a encore 48 ou 72 heures, l'artiste était encore en train de créer des éléments de l'exposition, et notamment par réaction par rapport à ce qu'il a vécu Place Vendôme il y a quelques jours. Et donc il a en quelque sorte réintégré dans son exposition à la Monnaie de Paris l'événement qu'il a subi, l'agression qu'il a subi Place Vendôme, et c'est un petit peu une catharsis de sa part d'exprimer son sentiment par rapport à sa liberté d'expression qui a été malmenée Place Vendôme.
On est dans l'intervention immédiate, en quelque
Exactement.
Sorte, la réaction. Ça, c'est tout l'art contemporain.
C'est l'art contemporain qui ne peut pas être plus contemporain. On est vraiment dans l'art en train de se faire.
Alors, cette exposition, M. Chocolate Factory, c'est donc à la Monnaie de Paris, jusqu'au 4 janvier prochain. Ce qui ne veut pas dire qu'on a le temps, parce qu'il faut être dans les premiers, à mon avis.
Ce week-end, donc, nous pourrons accueillir le public gratuitement, samedi et dimanche. Et puis ensuite, effectivement, l'exposition se déroulera jusqu'au 4 janvier prochain.
J'ai pas mal de questions d'auditeurs. On va pas pouvoir répondre à toutes, mais je me tourne vers Sabine Bourget. De quand datent les premiers billets, nous demande Guillaume, les premiers billets de banque. J'imagine qu'il parle de la monnaie papier, en fait.
Il y a une tentative sous Louis XV avec
Malheureuse.
Oui.
Pendant la Régence, en
fait.
C'est
très mal terminé, rue Quincampoix, mais c'était vraiment la première tentative d'une banque.
Oui.
Et ça aurait tout à fait pu marcher. Malheureusement, l'eau, qui était un joueur comme le régent, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont si bien entendus.
John Law, ça s'écrit L-A-W.
Oui, Law ou Law, c'est ça. Et en fait, il avait adossé donc sa banque à des compagnies maritimes, et comme les résultats n'ont pas été très bons pour ces compagnies maritimes, évidemment il y a une panique, et comme ces billets étaient, disons, on les apportait, on vous donnait de l'or en échange, un des grands nobles a absolument tout récupéré, il y a eu des émeutes, ça s'est très mal terminé, mais c'était la première tentative.
Bruno nous demande ce qu'était le franc tournois. Quelle est la particularité? Ça, c'est une question de lieu de frappe, en fait. C'est une question d'atelier. On distingue le franc parisis du franc tournois en fonction de la zone de frappe, tout simplement. Ça vient de là. J'ai parlé tout à l'heure, effectivement, d'une union monétaire sous Napoléon III. Cette fameuse union latine. Ça a été un moment très intéressant qui, d'ailleurs, au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, me paraît être une très belle un épisode de l'histoire assez passionnant que cette histoire d'union latine, c'est-à-dire qu'on voulait créer une monnaie unique, enfin en tout cas oui, une monnaie qui pouvait flotter mais qui était unique entre la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne. C'était le grand projet de Napoléon III. Quand je dis de Napoléon III, évidemment d'un certain nombre de personnes qui gravitaient autour de lui. Il faut savoir que les financiers ne manquaient pas dans l'entourage de l'empereur. Quelles étaient les monnaies imposées dans les colonies françaises, me demande-t-on? Est-ce qu'on utilisait le franc ou est-ce que c'était d'autres monnaies? Alors là, il faudrait voir en fonction des périodes et des colonies. Pour vous donner le cas de l'Indochine, par exemple, on utilisait les piastres, etc.
Enfin, c'était quand même très variable,
oui, c'était
colonie par colonie.
C'était variable par colonie et par période.
Et donc par période. On peut pas donner 15, une réponse. Il y avait des sols.
Aujourd'hui, on a encore les francs CFA qui sont non pas dans les colonies, mais dans des territoires d'outre-mer tels que la Polynésie.
Merci beaucoup à tous les deux. Bah d'ailleurs, on reste dans le domaine monétaire pour le retour aux origines, puisqu'on va parler justement des expressions. C'est ça. Hein.
Exactement, des expressions en lien avec la monnaie, comme par exemple payer rubis sur l'ongle.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et ce vendredi, Franck Ferrand vous répondait à la question d'Arnaud qui vous demande via la page Facebook de l'émission les origines des expressions en lien avec la monnaie.
Alors en fait, les expressions en question, vous avez par exemple payé rubis sur l'ongle. Vous savez, il y a un auditeur qui nous dit aujourd'hui c'est passé la monnaie dans Au cœur de l'histoire. C'est vrai qu'on avait beaucoup de pubs en même temps, c'est pas faux. Payer rubis sur l'ongle, ça n'a rien à voir avec la monnaie. En l'occurrence, c'était lorsqu'on versait, vous savez, à l'époque, le vin n'était pas en bouteille. Et lorsqu'on versait le vin d'une carafe, la dernière goutte, on la mettait sur son ongle. C'est-à-dire qu'on avait le pouce qui devenait tout rouge comme un rubis, voilà d'où ça vient, et on léchait, au moment de porter un toast à la santé, eh bien, on léchait cette goutte de vin. Voilà, c'était ça, le rubis sur l'ongle, et c'était un signe de générosité et de franchise en quelque sorte, d'où l'expression payer rubis sur l'ongle, c'est-à-dire payer avec le cœur, payer sans aucun délai d'une certaine manière. Payer en monnaie de singe, alors là c'est une question qui est liée à la question du règlement des dettes. En l'occurrence, l'origine de l'expression remonte au XIIIe siècle. C'est à cette époque que Louis IX, pardon, donc celui qui va devenir Saint-Louis, met en place le péage du Petit Pont à Paris, celui qui reliait l'île de la Cité à la rue Saint-Jacques, et tout le monde devait s'acquitter d'une taxe lorsqu'il désirait passer par là. Tout le monde, sauf ceux qui étaient bateleurs, jongleurs, forains, etc., qui possédaient un singe et qui pouvaient payer en faisant faire un petit tour à leur singe. Vous voyez, ils lui faisaient faire un petit... Ça amusait les gardiens qui les laissaient passer, d'où l'expression « payer en monnaie de singe ». L'expression est attestée dès 1552. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck, vous allez bien?
Mais oui, très bien, vous aussi visiblement.
Très bien, merci. Aujourd'hui, nous recevons la journaliste Audrey Pulvar qui publie un livre sur les femmes qui l'ont inspirée. Et nous allons vous raconter une histoire incroyable, celle de deux sœurs jumelles séparées à la naissance et qui se sont retrouvées par hasard 21 ans plus tard.
Ah oui, donc vous entrez dans les belles histoires en quelque sorte.
J'essaie Franck, j'essaie.
Eh bien, je profite, puisque pour une fois, j'ai un petit peu de temps, alors je vais en profiter pour remercier toute l'équipe d'Au cœur de l'Histoire, ce que je ne fais pas assez souvent, entre parenthèses. Bien sûr, Lorena Martin, que tout le monde connaît maintenant, on la connaît, elle est l'âme de cette émission, avec Marion Sauveur, avec Mathilde Salichou, avec Christophe Dard, et puis aux manettes, bien entendu, Jean-François Bussière, qui est là, toujours absolument impeccable chaque jour. Merci à tous. Je signale un ouvrage de Sabine Bourget, expert en monnaie donc. Ça s'appelle « Sous le signe du métal, histoire d'une famille du marché de l'art ». C'est votre famille et son rôle dans l'histoire des monnaies, en quelque sorte, Sabine Bourget. Et c'est édité, s'il vous plaît, chez vous-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle les éditions Bourget. Comme on dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Merci beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui nous faire rêver d'or et d'argent.